Hendon. Moi, j'ai été très, très ému par cette comédie.
Ouais.
Et en fait, quand je me suis séparé, ben, j'ai dit, ben, je vais postuler pour aller travailler là-bas parce que ça m'avait fait du bien de le voir.
Oui.
Mais en fait, j'ai été pris et ça m'a vraiment fait du bien de travailler avec eux.
Très bien.
Et du coup...
Alors, vous savez quoi, on va marquer une petite... on va rester là dans notre histoire. On va marquer une petite pause pour laisser l'info passer. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Lionel.
À tout de suite.
Europe 1, il est 23h. Un tour de l'info avec vous, Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions de football. Victoire du club de la capitale, 4 buts à 1. Et c'est un doublé, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Vitinha et un but d'Ousmane Dembélé pour le PSG. Dans l'autre match du soir, le Borussia Dortmund a arraché son billet pour les demi-finales en battant l'Atlético Madrid, 4 buts à 2. 3 personnes sur les 60 particulièrement ciblées dans le cadre de l'opération Mayotte Placenet ont été interpellés dès le premier jour. Annonce de la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, sur Europe 1 ce soir. Ces délinquants particulièrement dangereux sont accusés d'être liés à des trafics ou à des actions violentes. Mayotte Placenet a été lancée ce matin pour lutter contre l'insécurité, l'habitat indigne et l'immigration irrégulière dans le département le plus pauvre de France. Fin de la mission prévue au mois de juin. Europe 1 vous révélait cette information dès ce matin. La Russie sera bel et bien conviée aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin prochain. Mais en raison de la guerre en cours en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine est persona non grata, précision des organisateurs. Le pays pourrait être représenté par des membres de son ambassade en France, par exemple. Les commémorations du 80e anniversaire de la libération ont déjà commencé. Emmanuel Macron s'est rendu à Vassieux en Vercors, dans la Drôme, aujourd'hui. L'une des 5 communes compagnons de la libération, où 101 résistants et 73 villageois ont été massacrés par la milice française et les troupes nazies en 1944. Ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas, c'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France, a déclaré le chef de l'État en référence aux crimes commis par les collaborationnistes. La moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère et douloureuse de la part de Téhéran. Les propos menaçants du président iranien Ebrahim Raisi, 3 jours après l'attaque inédite de la République islamique contre l'État hébreu. Désormais, la communauté internationale craint un embrasement au Moyen-Orient après la riposte d'Israël déjà annoncée, mais la forme de ces représailles n'est pas encore actée. L'Union européenne, de son côté, envisage de nouvelles sanctions contre la République islamique. Et aujourd'hui, le Hezbollah, allié de Téhéran, a revendiqué le lancement de drones explosifs depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël. Bilan 3 blessés. Peu après, l'armée israélienne a revendiqué l'assassinat d'un commandant de la milice chiite. Le Premier ministre belge dénonce une décision inacceptable. Le bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Josse a ordonné l'interruption d'une conférence réunissant plusieurs figures de la droite nationale européenne. L'élu met en avant une nécessité de garantir la sécurité publique tout en affirmant, je cite, que l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Éric Zemmour s'est vu refuser l'entrée dans cette réunion. Joint par Europe 1, le patron du parti Reconquête juge cette mesure liberticide et scandaleuse. Et puis Brigitte, une femme libre. C'est le nom de la série consacrée à la vie de Brigitte Macron, dont l'écriture vient de débuter. Gaumont l'annonce aujourd'hui. La société est à la recherche d'un diffuseur. Le casting n'est pas encore finalisé, mais on connaît les scénaristes. Il s'agit d'Olivier Pouponneau et Bénédicte Charles, déjà à l'origine de la série Mirage. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03. La suite de la Libre Antenne, c'est maintenant avec un Olivier Delacroix, très heureux évidemment.
Exactement, très heureux. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Et voilà, nous sommes très très heureux, bien évidemment.
Évidemment.
Et c'est un Hébraïcien, d'Evreux, donc, qui a marqué le premier but ce soir, qui a sonné la révolte, puisque c'est Ousmane Dembélé, qui est né à Evreux et qui a joué à Evreux longtemps avant de s'envoler pour une carrière telle qu'on la connaît, qui a sonné la révolte. Voilà, 2 buts de Mbappé. Voilà, nous sommes très heureux.
Que du bonheur, finalement.
Nous sommes très heureux. Mais ça ne vous empêche pas de vous amener avec une petite surprise.
Oui, 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 je vais trouver ça, promis.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
23h passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis, nous sommes très heureux de passer tous ces moments avec vous, toutes ces soirées. Donc vous le savez, nous sommes là pour vous, alors n'hésitez pas. 01 80 20 39 21, Julia, Florian et Laurent. Notre réalisateur vous attend ici et attend vos appels. Nous sommes avec vous, Lionel. Nous évoquons ce soir cette séparation et puis cette descente aux enfers. Vous nous expliquez, Lionel, que vous aviez donc vu cette comédie musicale et vous avez décidé de postuler pour cette comédie musicale. Mais vous m'avez parlé de Lourdes hier soir parce que cette comédie musicale allait se jouer à Lourdes.
Alors en fait, c'est une comédie musicale qui raconte la vie de Bernadette Soubirous. Alors il n'y a rien de catholique dans cette comédie musicale, c'est juste ils évoquent les apparitions de la petite Bernadette Soubirous.
Oui, oui, oui.
Et donc en fait ils ont retracé toute sa vie et ils l'ont mis je crois que c'est Lionel Florence qui a fait les textes et Grégoire qui a fait la musique. Ils ont mis ça en scène et ils ont reproduit la grotte de Lourdes dans la salle. Et voilà, ils ont juste raconté l'histoire de cette petite fille. Et c'est vraiment excellent. J'ai même des amis à moi qui ne sont pas du tout catholiques, qui sont même d'autres communautés, enfin d'autres religions. Mmh. Je les ai amenés et ils ont été complètement... abasourdi de voir qu'ils sont sortis émus, quoi. Donc, c'est génial. D'ailleurs, elle est en tournée dans toute la France en ce moment.
Oui.
Parce qu'au début, elle était qu'à Lourdes et maintenant, ils sont en tournée, quoi. Et malheureusement, j'ai pas pu le partir avec eux. Ce qui est mon grand regret aujourd'hui, quoi.
Parce que, vous n'avez pas pu partir en tournée avec eux. Pourquoi? Oui. À cause de l'accident?
Oui, c'est ça.
D'accord.
En fait, je travaillais. Moi, je ne suis pas du tout acteur, ni musicien, ni chanteur. Hein.
Oui.
Je m'occupais du placement des gens où je flashais leur ticket d'entrée. Vous voyez, je travaillais avec eux.
Ouais, vous étiez un peu plus dans le côté régie, en fait.
C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je crois que j'avais un petit contrat de 3 heures, mais j'ai resté 10-12 heures par jour, tellement j'adorais travailler avec eux. Et voilà, je prenais même des affiches, je les placardais dans tout le département, je voulais que tout le monde me la voie. Je prenais des flyers, je les mettais dans tous les... Dans toutes les villes, partout. J'essayais de le faire connaître, tellement c'était génial, quoi. Ouais. Ça m'avait fait du bien. Mais je continuais quand même à boire.
Bon, et vous continuez continuez à boire, parce que le soir, vous étiez bien évidemment seul. Seul.
C'est ça. C'est pour ça que j'ai resté au maximum de temps. On se demandait pourquoi j'ai resté autant de temps, parce que j'avais peur de rentrer chez moi, et parce que je savais que j'allais pas être bien.
Ouais.
Et ça, donc, c'était en mars. Et malheureusement, en avril, encore un souci. Ma maman m'appelle et me dit que mon père est hospitalisé.
Oui.
Parce qu'il a des problèmes respiratoires. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et 2 jours après, il est décédé. Il a fait une infection pulmonaire. Alors je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc la séparation, mon papa qui s'en va. Et donc, bien sûr, mais... ça m'a pas du tout j'allais plus du tout bien, donc je buvais encore plus et malheureusement en rentrant du travail au mois d'août en montant chez ma mère pour la voir, j'ai eu ce grave accident de moto.
Oui.
Et qui m'a coûté très très cher, quoi. Très très cher.
Oui, vous m'étonnez qu'il vous a coûté très très cher.
Ah oui, oui, oui. Et et pendant que j'étais hospitalisé au centre à Bagnères, donc de Bigorre, j'ai la mère de mes enfants qui venait régulièrement me voir quand même. Vous voyez, on était séparés, mais on s'entendait bien. Et elle venait tout le temps me voir, tout le temps. Et j'ai même cru à la sortie, j'aurais pu peut-être me remettre avec elle, si vous voulez. J'y croyais.
Ah
parce
oui,
que là, j'étais...
Oui,
oui. Bien sûr, comme j'étais à l'hôpital, j'étais plus du tout sous l'emprise de l'alcool. Et je suis sorti donc en février 2023. Et je lui ai demandé si on pouvait se remettre ensemble. Et là, elle m'a dit qu'elle avait appris à vivre seule pendant un an.
Oui.
Et qu'elle ne voulait pas se remettre avec moi, qu'elle était bien seule. Voilà. Alors là, redescendre aux enfers.
Dégringolade.
Je suis je suis reparti dans l'alcool. Et là.
C'est fou parce que vous n'aviez pas une tendance à l'alcool avant du tout, Lionel.
Et pas du tout. Aucune. Non. Pas du tout. Non. C'est, j'arrivais pas à gérer mes émotions. Et, en fait, je buvais pour oublier, partir au lit et vite passer à autre chose, quoi. C'était le travail, boire et dormir.
Ouais,
C'était une escalade de bêtises incroyables. Et en plus, mes enfants, que j'adore, mais, se sont un peu tournés de moi. Ils ne me comprenaient pas. Ils passaient plus me voir à la maison. Je les croisais, ils me disaient juste bonjour, mais aucun dialogue. Donc là, c'était de pire en pire. Et je les voyais que le dimanche au rugby, quoi. Mais c'était juste bonjour et c'est tout. Là, c'était terrible, terrible. Je savais plus comment m'en sortir, quoi. Et justement, juste avant l'accident, 4 jours avant, je me suis rendu dans un centre d'addictologie.
Oui.
Et je leur ai dit que je basculais sur une pente un peu glissante et dangereuse parce que je sentais que j'allais, j'arrivais pas à le contrôler, si vous voulez.
Oui.
Bon. Malheureusement, j'ai eu cet accident et j'ai repris après en sortant de l'hôpital, j'ai repris bien sûr la boisson je me suis rendu au centre d'addictologie donc un an après et je leur ai dit faut m'aider mais on trouvait pas, on pédalait un petit peu jusqu'au jour d'octobre où j'écoute la Libre Antenne et là ça a changé ma vie. Ça, vous avez changé ma vie, Olivier, et cet auditeur dont je ne connais même pas le prénom. C'est en octobre ou novembre, j'étais dans mon lit et j'écoute cet auditeur qui a des problèmes d'alcool. Mais alors lui, le pauvre, c'était sévère parce que je pense qu'il avait bu pendant 40 ans de sa vie.
Ah oui, oui.
Et il avait fait plusieurs cures. Qui n'avait pas eu de succès, si vous voulez. Ils replongeaient à chaque fois. Ils parlaient de craving. Alors je l'ai cherché sur Internet. C'est des pulsions irrévocables. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller boire. En fait, ils appellent ça une craving. C'est anglais,
je prends souvenir de lui. Il avait de gros problèmes de santé en plus, hein, de foie.
Oui, c'est ça.
Oui. Un monsieur de Bretagne, je crois. Il me semble me souvenir qu'il
oui.
était de Brest.
Mais disons qu'elle mémoire.
Ah, mais j'ai une mémoire d'éléphant.
C'est ça.
Ça me rassure.
Ah oui, non,
beaucoup.
Mais c'est ça.
Oui, c'est mes. Oui, oui.
Non, mais c'est vrai.
Mais j'écoute, hein. Quand je dis j'écoute. Je me souviens très bien de ce monsieur qui nous avait appelé et qui était sobre depuis 2 ans, je crois. Il avait enfin réussi.
Voilà. Oui. Tout à fait. Ben, dis donc. Mais ce monsieur, avec vous m'avez énormément aidé. Puisqu'il parlait de ses cures et qu'il replongeait, que ça marchait pas.
Et finalement, il avait tout perdu, cet homme.
Ah ouais, lui, tout perdu. Alors lui, pire que moi-même. Son médecin, un jour, lui propose un médicament que l'on appelle le médicament du dégoût. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ingère ce médicament, et bien, en fait, on ne peut plus boire d'alcool. C'est-à-dire que dès qu'on ingère un verre d'alcool, et bien, on peut avoir une espèce de tachycardie, enfin le cœur qui s'accélère, une baisse de tension devient rouge, on peut tomber dans les pommes. Enfin, il y a une multitude d'effets secondaires qui peuvent être très graves. Mm-hmm. D'ailleurs, à la suite de votre émission, moi j'en ai parlé moi à mon médecin pour. J'ai dit je veux ce médicament parce que je suis pas assez, j'ai pas assez de caractère pour éviter d'aller en chercher de l'alcool. Et je pense que ce coup de pied aux fesses C'est ce médicament qu'il me faut. Et alors, donc, on ne le donne pas comme ça. Donc, j'ai dû voir un psy et des prises de sang pour voir si ce médicament, si vous pouvez l'accepter, si vous voulez. Et donc, toutes les analyses ont été bonnes. Et depuis le 18 janvier, où c'est que j'ai commencé ce médicament, j'ai arrêté de boire. Je suis sobre depuis le mois de janvier. Et ma vie a complètement changé, quoi. Moi, j'y croyais pas. Et vraiment, c'est pour ça, en fait, que j'avais appelé, juste pour vous dire merci. Parce que c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, je suis un homme pétillant. Je suis un homme en pleine forme.
Quel bonheur.
Qui a retrouvé le sourire. Ouais. Mm-hmm.
Magnifique.
Mais mon Dieu, que l'alcool, c'est un fléau.
Ah, c'est terrible.
Terrible. Ça change un homme.
Ah, c'est terrible.
Oh. Ah ouais.
L'alcool, c'est terrible, Lionel. Je pense que.
Ah ouais.
Je pense que, bien évidemment, on parle de la cocaïne et de l'héroïne, mais d'abord, on parle du premier fléau. Hein, on parle du premier fléau, la première addiction, hein, puisque la France, étant un pays en plus à tradition de bonne chère, de tout ça, il y en a partout de l'alcool. Et puis je vois.
Le problème, c'est la libre accès à ce produit.
Ah, mais vous savez, là où j'habite, je vois. Dans un supermarché où je vais faire mes courses, je vois le nombre de personnes qui achètent des flashs de vodka, de whisky, tous les soirs, là. C'est terrible. C'est terrible.
Ouais.
Et on est en train d'avoir une politique, si vous voulez, aujourd'hui, de punition des consommateurs de drogue. Mais la première des drogues, et qui est aussi terrible que la cocaïne, que l'héroïne, c'est l'alcool. Je peux vous dire que, vous le savez, vous qui êtes passé par là, on n'a rien, quelqu'un qui est malade d'alcool n'a rien à envier, vraiment rien à envier à celui qui est accro aux autres drogues. C'est fou, mais c'est malheureux. C'est malheureux.
Oh là là, ah ouais. Et c'est incroyable les dégâts qu'on peut faire autour de soi, parce qu'en fait, on se détruit. Et mes enfants l'ont vu, et ma mère l'a vu. J'ai fait beaucoup de mal à ces personnes-là. Mm-hmm.
Mais c'est à vous que vous avez fait du mal en premier, vous savez.
Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Non, c'est vrai, oui.
Ouais, oui.
Mais par contre, maintenant que je ne bois plus, mes enfants sont revenus me voir.
Bah,
je les vois pratiquement tous les jours. Avec mon ex-compagne, on se voit, on boit le café ensemble, on s'entend bien. J'ai changé de vie. Je suis tellement bien. Et c'est génial. Je ne remercierai jamais assez Europe 1, ce monsieur et vous, bien sûr.
Mais remerciez-vous vous-même en premier, Lionel, parce que vous savez, c'est important. Dans ce que vous avez vécu, de vous remercier, vous, en premier, et d'être fier de vous, parce que vous revenez de très, très loin. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, ce chemin. C'est vous qui l'avez gagné, cette bataille. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est vrai que mon médecin me dit les mêmes choses.
Ah bah oui.
Il est fier de moi, il me le dit tous les jours. On dirait que j'ai gagné, vous savez, une compétition presque.
Mais oui, mais c'est une compétition.
C'est un combat. Hein.
Ah mais oui, c'est un combat.
Ouais.
C'est un combat énorme. Vous savez, si vous écoutez la Libre Antenne, vous voyez le nombre de personnes qui nous appellent et qui ont encore cette problématique. Je pense à Farid qui nous a appelé l'autre jour, accro à l'alcool et aux benzo. Ce qu'on appelle des benzos, c'est tous ces médicaments contre l'angoisse et tout. C'est extrêmement difficile de se sortir de là. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, cette addiction est l'une des pires qu'il y ait. L'une des pires qu'il y ait.
Oui. Et en plus, on a un peu honte d'en parler. C'est un peu tabou. Moi, je voyais les gens qui, comment on appelle ça, en groupe de parole, souvent, ils venaient dans les centres d'addiction pas par choix. C'est parce qu'ils tombaient soit malades et ils arrivaient en cure, ou alors c'était la justice qui leur demandait.
Malheureusement, en plus... Allez-y.
On me disait que c'était extrêmement rare. J'étais un cas un peu rare de vouloir faire la démarche de moi-même. Mm-hmm. C'est souvent... c'est pas leur choix, eux. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas, des fois. Si on l'a pas dans la tête, ils venaient malgré eux, quoi.
Ouais, puis souvent, on vient dans ces centres, comme vous dites, contraints parce qu'on a eu une injonction de la justice, parce qu'on a eu un accident de voiture, parce que on a été violent avec sa femme ou ses enfants. L'alcool, vous le savez, hein, l'alcool modifie le comportement, malheureusement. Et c'est terrible, terrible. Bon, mais ça, c'est génial que vous ayez réussi ce combat, comme vous dites. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, donc aujourd'hui c'est...
Ouais, je suis heureux.
Ouais, vous êtes heureux, vous.
Il y a juste un truc qui me manque. J'aimerais, c'est retravailler pour cette comédie musicale. Mm-hmm. J'aimerais, s'il y a un des deux producteurs qui m'entend, moi je postule, il n'y a pas de souci, je reviens avec eux.
Mm-hmm. Vous avez repostulé Vous avez repostulé, justement?
Non, pas encore, non. Mais non, je ne l'ai pas fait.
Faites-le.
C'est compliqué d'avoir... c'est Roberto Cuirlo et Léonore de Galard qui s'occupent de ça, mais je n'ai pas du tout leur numéro, je ne sais même pas comment faire.
Ah oui.
Je ne sais pas comment postuler. Je l'avais fait quand ils étaient à Lourdes, j'avais été les voir, c'était plus facile. Maintenant qu'ils sont en tournée, je ne sais pas du tout comment faire.
D'accord. Alors là,
voilà.
Parce qu'ils étaient... à Lourdes et vous êtes passé les voir à Lourdes. C'est ça?
Oui, directement, j'ai été au culot, ouais. Je suis tombé devant Roberto Cuirlo, qui est producteur de comédie musicale, qui avait travaillé, je crois, en Énergie. Et j'ai été le voir. C'est quelqu'un de formidable. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, mais bienvenue. Mais comme ça, ça s'est fait comme ça. Et après, avec l'accident, j'ai plus eu aucun contact. J'ai perdu contact avec eux et je ne sais même pas comment postuler pour aller les revoir. Ça serait génial, mais je vais essayer de chercher, je vais bien trouver. Hein.
Oui, vous allez trouver. Et puis, si ça se trouve, l'appel que vous lancez ce soir va être entendu, hein, vous savez.
Ça serait tellement bien.
C'est comme ça, c'est comme ça que les choses se font. Vous savez, quand on arrête de boire, quand on... Quand on revient dans la vie, finalement, on s'aperçoit que tout est plus facile. Tout est plus facile. Tout est.
Oui, c'est vrai.
Mais vraiment, hein. Il faut bien que celles et ceux qui sont encore dans cette addiction et qui nous écoutent ce soir le saisissent. Quand on ne boit plus d'alcool, quand on ne se drogue plus, tout devient plus clair. Et la vie, c'est clair. Moi, je vais vous dire, au Narcotique Anonyme, on m'avait promis une chose, c'est que si je devenais abstinent, eh bien, il y aurait plein de choses qui se passeraient dans ma vie, de belles choses, de bonnes choses. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai ?
Mais oui. Quand vous arrivez aux Alcooliques Anonymes ou aux Narcotiques Anonymes, d'abord vous êtes la personne la plus importante. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que nos quatre nouveaux membres que nous accueillons dans cette communauté de la Libre Antenne sont les plus importants. C'est toujours les petits derniers qui sont importants et qu'il faut accueillir. Et puis, la chose qu'on vous dit, c'est que si tu continues, tu finiras à l'hôpital, dans le meilleur des cas, ou en prison, un autre meilleur des cas, ou au cimetière. Par contre, si tu arrêtes, si tu deviens abstinent, on te promet que tout va s'éclairer. Vraiment, les choses s'éclairent au fur et à mesure. La vie vous offre des événements heureux, des mains tendues. Et puis, c'est grâce à vous, au final. C'est grâce à vous, parce que vous devenez une personne claire, directe, Alors, bien évidemment, ça n'est pas facile d'affronter la vie au début sans artifice, parce que les artifices, bien évidemment, on les prend pour souvent pour se stimuler, hein, pour affronter une réalité qui est trop dure. Mais finalement, on s'aperçoit que cette réalité, elle est beaucoup plus facile à affronter sans rien. Mais il faut en prendre l'habitude. Il faut en prendre l'habitude.
Moi, ça m'a donné une pêche. J'arrête pas. Je bricole, je ressors, je reste plus dans mon lit. Je suis un autre. Enfin, quand je dis à mon médecin, je suis un autre homme, il me dit non, vous êtes l'homme que vous devriez être sans alcool. En fait.
Ouais, vous vous êtes rencontré. Quelque part, vous vous êtes rencontré.
Voilà. C'est ça.
Et oui. Ouais, c'est bon hein, de faire sa propre rencontre, hein, quand même.
Ah ouais. Excellent.
Puis vous êtes dans une belle région. Bagnères de Bigorre, c'est ça ?
Bagnères de Bigorre, oui.
Bagnères de Bigorre.
C'est la région qu'on appelle le département. On est les Bigourdans.
Les Bigourdans.
Ouais. Dans. Bigourdans.
Bigourdans, d'accord.
Ouais.
Bon.
Et voilà. Mais d'ailleurs, si il y a des gens dans le 65 ou aux environs ont besoin de me parler, vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone.
D'accord.
Je serai là pour les aider et les aiguiller, pour leur dire que je suis une preuve vivante que ça peut marcher. Mm-hmm.
Et vous savez,
quoi leur dire.
Vous qui nous écoutez, chers amis, c'est très important ce que dit Lionel, lorsqu'on veut se sortir de l'addiction, et là, je parle de n'importe quelle addiction, même comme Farid, l'autre jour, nous parlait de cette addiction aux médicaments, aux benzos, eh bien, c'est très important ce que Lionel dit. Il faut vraiment prendre conscience qu'on ne s'en sort jamais tout seul. C'est impossible de s'en sortir tout seul. Alors, il faut commencer à s'appuyer sur celles et ceux qui vous tendent la main et vous proposent leur aide et vont vous montrer un petit peu le chemin que eux-mêmes ont pris avant vous et qui les a menés à la sobriété, à être abstinent, parce que c'est possible d'être abstinent, c'est possible. Donc, aujourd'hui, c'est encore un message très lumineux que vous nous livrez, Lionel, et pour cela, je vous remercie beaucoup. Ne manque plus que vous rencontriez une nouvelle femme dans votre vie, et puis voilà.
On va attendre un petit peu.
Oui, attendez, voilà, il ne faut pas se presser.
Je pense que ça viendra tout seul.
Bon.
Et voilà, si vous voulez donner mon numéro, n'hésitez pas.
On le donnera, avec plaisir. On le donnera.
Vous avez Florian.
Oui,
c'est génial.
Il vous écoute. Et il y a beaucoup de SMS pour vous. Gaëtan, Irène, Sabrina, Eric, Patrick, Hélène, qui vous félicite, Lionel, pour votre témoignage et pour votre combat gagné. Passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas à me redonner des nouvelles. Hein, vous connaissez le chemin maintenant, d'accord?
Merci de m'avoir écouté, Olivier.
Mais je vous en prie. Et puis j'en profite pour saluer tous les gens qui habitent votre belle région de Bagnères de Bigorre.
Merci.
Bonsoir, Lionel.
Merci pour les Hautes-Pyrénées, c'est sympa. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Petit conseil concernant vos belles fraises gariguettes françaises. Ne les laissez jamais en évidence dans la cuisine.
Ah bon, pourquoi?
Ben moi, je l'ai fait. Et ce matin, il n'y en avait plus.
Alors venez vite en reprendre. Du 17 au 20 avril chez Leclerc, la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes origine France est à seulement 2,19€.
Cette fois, je les cache derrière les pommes.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 8,76€ le kilo, catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Ah.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
C'est moi. 23h29, cette semaine, en l'absence de Thomas Hill, une grande personnalité remplace le grand Thomas Hill. C'est Jean-Pierre Foucault qui prend les commandes de Culture Média, l'émission de référence sur les médias, du lundi au vendredi de 9h à 11h. Et demain, Jean-Pierre recevra Inès Reg, qui participe à Danse avec les stars et qui sera en tournée à partir de septembre avec son nouveau spectacle. On est ensemble tous les jours. Vous savez que vous pouvez tester vos connaissances culturelles. En jouant avec Culture Média, vous envoyez Média au 739-21, 75 cents le coût du SMS. N'oubliez pas, vous envoyez deux SMS hein, pour participer au jeu. Et cette semaine, quoi de mieux que d'échanger avec Jean-Pierre Foucault, qui remplace donc Thomas Hill pour Culture Média. Culture Média, c'est donc de 9h30 à 11h, et non de 9h à 11h, puisque c'est Pascal Pro qui, avec l'heure des pros, est là de 9h à 9h30. Voilà, il est 23h30, on écoute un peu de musique et puis on se retrouve dans quelques instants.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots.
Marc Lavoine sur Europe 1 avec un nouveau directeur artistique qui n'est autre que le grand Darko, qui a écrit les plus grands tubes de Julien Doré et qui accompagne maintenant à la guitare sur scène et qui fait la direction artistique de Marc Lavoine. Une belle combinaison que Darko et Marc Lavoine pour ce titre que nous venons d'écouter de Marc Lavoine. 23h34 sur Europe 1, c'est la libre antenne, vous y êtes bien, j'espère, et nous accueillons Stéphanie maintenant. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Stéphanie et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 48 ans et je vous appelle de Normandie.
De Normandie, d'accord.
Voilà.
Vous appelez sur le conseil d'une amie?
Oui.
Pourquoi cela?
je suis dans une affaire vraiment très délicate. Je me sens un peu seule, mais c'est comme... et puis j'ai peur pour mon enfant.
D'accord.
Donc je me dis qu'en appelant, et puis peut-être pour aider d'autres gens à ne pas faire les mêmes bêtises que moi, voilà, mmh. je me dis si au moins notre histoire, elle peut servir à d'autres. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que peut-être je commence ?
Oui.
Je suis un peu intimidée.
Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Et en même temps émue, parce que... Voilà, donc moi je me suis retrouvée avec mon enfant qui s'est fait agresser par des voisins, assez salement, hein, c'est un peu glauque l'histoire. Et donc j'ai été conviée par la gendarmerie à aller porter plainte le lendemain après-midi. Et je précise l'après-midi parce que dans la matinée, eux ils ont foulementé un internement. C'est-à-dire ils ont demandé au maire... Et une personne de ma famille un peu jalouse et qui on ne s'entend pas, enfin voilà, qui s'est fait un plaisir de signer pour me faire interner. Ce qui fait que quand je suis venue à la gendarmerie pour porter plainte, je me suis retrouvée peut-être un quart d'heure après, hein, même pas, entourée de quatre pompiers qui m'ont sommé, menottée ou non, de les suivre en hôpital psychiatrique.
Incroyable. Alors, votre fils a été agressé dans quelle... circonstances exactement ? Que s'est-il passé ?
Alors, c'est-à-dire il avait 3 ans.
3 ans ?
Et, oui, 3 ans. Donc, ça, je vous dis même de vous raconter ça, ça me fait trop bizarre. Donc, voilà, moi je suis une mère célibataire, je fais école à la maison, donc je suis tout le temps avec lui. Et donc, j'ai des voisines qui avaient installé une piscine. Et ce jour-là, j'essaie de ranger un petit peu ma cuisine et tout. Et c'est vrai que le petit loulou, bah, à 3 ans, il ouvre les tiroirs, vous rangez un truc, il sort les lentilles de l'autre côté, etc. Donc j'ai une voisine qui passe, puis qui me dit « Bah écoute, tu nous laisses à la piscine, tu nous laisses 2 petites heures, et puis tu viens rechercher après, comme ça tu pourras ranger tranquillement ta maison. » Voilà. Je sais pas si je suis vraiment obligée de donner tous les... Vous vous doutez bien un peu dans quel genre d'histoire on se retrouve. Il était avec une petite gamine de 4 ans, voilà. Donc je vais pour expliquer tout ça à la gendarmerie quand même, c'est sérieux là. Et donc bah, eux m'ont décidé de me faire interner, quoi. Donc là où j'ai eu de la chance, c'est que les pompiers, vu que quand même la ville était à peu près 50 km de cet hôpital psychiatrique, pendant le trajet, moi, j'ai quand même dit aux pompiers, bon, vous vous trompez, là, moi, je viens pour porter plainte. Enfin, vous vous trompez de personne. Donc, je crois qu'ils se sont sentis un peu, je sais pas si c'est pas un peu un acte manqué, mais en gros, ils m'ont abandonné sur le parking. Dieu merci. Ce qui fait que je n'ai pas eu à rester, je ne sais pas combien de temps je serai restée, j'y serai peut-être encore, d'ailleurs.
Mais en fait,
donc je suis...
les pompiers vous abandonnent sur le parking de l'hôpital psychiatrique.
Ils m'ont pas abandonné, il y avait, ils m'ont laissé avec 2 petites infirmières, mais qui cliquaient pour que sur un espèce de truc là pour que les sécurités arrivent, vous voyez, parce que moi je leur disais mais vous n'allez pas me faire rentrer là-dedans, etc.
On parlait, oui,
donc ils sont restés un petit peu. Et en fait, la sécurité pour me faire rentrer n'arrivant pas, où je vous dis, je ne sais pas si ce n'est pas un acte manqué de leur part, s'ils ne voulaient pas complètement participer à ça non plus. Donc, ils ne sont pas restés, alors qu'ils étaient un peu, normalement, je crois, les garants de ce que voilà, je sois bien interné. Vous voyez ? Voilà.
D'accord. Donc, au final, vous n'êtes pas interné.
Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont partis, et moi, je me suis retrouvée avec 2 petites infirmières fluettes. Donc, mes jambes sont, si vous voulez, après, il y a des réflexes de survie naturelle, hein, qui font que je suis partie en courant du parking, voilà. J'ai chopé un autostoppeur, enfin, au bout de 4 autostops, parce que pour rentrer de 50 km, et je vous passerai le détail d'un certain autostoppeur qui aurait pu me ramener directement, si en quelques. Enfin, donc, je me suis retrouvée déjà catapultée dans un cauchemar, mais ça, c'est la première partie, hein. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte, parce que le cauchemar continue avec mon fils, là, maintenant.
Alors, c'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas le temps que j'ai, parce que, vous voyez, je parle avec des assistantes sociales, des gens comme ça, qui en plus ne nous laisse pas le temps d'écoute que vous nous laissez. Donc ça me fait bizarre, j'ai l'impression de devoir résumer tout ça en deux secondes et j'ai le temps là.
Prenez votre temps.
C'est fou ce que vous nous accordez. Vraiment, je vous donne vraiment gratitude. Donc je vais vous expliquer. Donc après ça, donc j'ai été récupérer mon fils chez la personne chez qui je l'avais laissé pour aller porter plainte. D'ailleurs, je lui avais demandé s'il voulait venir avec moi, parce que moi, je l'éduque à la méthode Sudbury. C'est un peu comme Montessori. Vous voyez, vous impliquez vraiment les enfants, vous les considérez. C'est pas, ils sont certainement, il y a des fois plus intelligents que nous. Hein, parce qu'on a été tellement conditionnés qu'on ne sait plus. Enfin voilà. Donc j'ai été récupérer mon enfant. On est je suis repartie en banlieue parisienne parce que j'ai un petit studio sur Paris. Donc on est reparti vite là-bas, savoir si on pouvait remonter après en Normandie sans que je me refasse rattraper. Parce qu'en fait, j'ai quand même été jugée aussi pour vol d'enfants d'État. Voilà. Aussi, j'ai eu une convocation après. Ça n'a rien à voir. Je mélange.
Oui, non, mais n'allez pas trop vite, surtout. N'allez pas trop vite. Vous récupérez votre enfant chez les voisins.
Voilà.
Et ensuite, que se passe-t-il?
Chez la personne.
Oui, chez la personne que vous l'aviez.
Voilà. Voilà. Donc, quand on est revenu, si vous voulez, moi, après, j'ai eu les assistantes sociales, étant donné que j'étais une évadée d'asile psychiatrique, on a eu 2 ans de contrôles sociaux, voilà, pour prouver que j'étais pas folle, etc.
D'accord.
Et donc, pendant cette période, en plus, je ne pouvais pas porter plainte contre la gendarmerie, qui avait refusé de prendre ma plainte, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de refuser de prendre des plaintes.
Normalement, ils n'ont pas le droit.
Et ils n'ont pas le droit non plus d'envoyer des mères en asile psychiatrique qui viennent déposer des plaintes. Donc, je devais déjà, dès lors, faire ça. Mais on me l'a déconseillé parce que vu que j'étais en suivi, il fallait que je prouve que je ne sois pas folle, ma plainte n'aurait peut-être pas été jugée... n'aurait peut-être pas été encore une fois reçu, peut-être. Voilà, donc on a répondu à tous leurs contrôles, ils sont venus chez nous, on a été chez eux dans des espèces de centres sociaux, où ils se sont permis d'ailleurs de faire des tests psychologiques à mon fils, même sans me demander, il y a des fois prétextant simplement juste de le laisser jouer, voilà, bon, des études, bon, tout ça, on l'a fait, voilà. Puis moi, je pense que c'est parce que j'étais pas stupéfaite, mais vous voyez, on est complètement dans un autre... Même là, d'ailleurs, je plane un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu difficile quand on vit ce genre de situation. Voilà. Et ça s'est arrêté. Donc, c'était 2020-2022. Et 2023, les voisines, parce qu'en fait, ça aurait dû susciter le fait qu'on parte de là. Vous voyez, on est harcelé par la gendarmerie, on ne m'entend pas.
Oui, vous auriez dû partir.
On a 2 maisons. Oui, mais moi, j'ai acheté une maison qui est sublime. Voilà, 200 mètres carrés, 900 mètres carrés de jardin, où on s'éclate royal avec mon enfant. Bah, pour moi, c'est plutôt à elle. Pour moi, c'est plutôt les agresseurs qui doivent partir, vous voyez. C'est une logique humaine, je veux dire, dans n'importe quelle tribu, s'il y en a un qui fait des choses comme ça, il va aller construire une tribu ailleurs, mais où il va au moins s'excuser, où il a une peine, ou voilà, moi mon fils demande à ce qu'ils aient au moins une amende, ou bon. Donc ce serait à moi de déménager, semblerait-il, parce que ces femmes, donc ne me voyant pas partir, puis leur mari, parce que c'est surtout lui qui a le bras long et qui a fait, d'ailleurs c'est lui qui a avec la gendarmerie, déjà pour qu'ils fassent ça, ils ont protégé cette famille, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça, je ne veux pas savoir d'ailleurs pourquoi.
Ils vous ont peut-être pris un peu dans le pif. Tout simplement.
Oui, complètement, voilà. Donc elles ont appelé le 119, voilà, pour information préoccupante. Donc
les mêmes voisines.
Les mêmes voisines, oui. Donc moi j'ai appelé le CRIP, après, ce qui est l'organisme qui reçoit ces appels, pour leur demander si quand même ils faisaient un minimum de contrôle, parce qu'étant donné que c'était des personnes contre qui je devais porter plainte pour agression sur mon fils, c'est quand même un peu bizarre qu'ils reçoivent... voilà. Qui donne suite à ce genre d'appel. Voilà.
L'appel qui est passé donc pour comportement préoccupant, c'est-à-dire il vous accuse de quoi ? Donc de maltraiter votre fils, c'est ça ?
Alors voilà, non, alors il m'accuse de ne jamais le faire sortir, alors qu'on est tout le temps dehors, donc en plus, nous on a, de jamais le faire sortir, de ne pas le mettre, de pas le scolariser, mais je fais éducation à la maison, on est suivi par l'Académie de Paris avec résultats satisfaisants.
Vous avez le droit, vous avez le droit, ça vous...
Ah oui, on est même contrôlé, j'ai le contrôle de la mairie, le contrôle... Donc je suis en règle totale. Oui. Il y a juste à appeler l'Académie de Paris, demander nos noms, et en deux minutes, ils vous envoient tous les comptes rendus de tous les examens qu'on a pu déjà faire et qu'on honore avec plaisir.
Donc du coup, on vous accuse de ne jamais le sortir, donc vous devez rendre, des comptes à qui, là, à ce moment-là ?
Alors d'abord à des assistantes sociales. Mais moi et mon fils... Parce que mon fils, il est quand même, on a eu quand même 2 ans de contrôle. Et quand je vous dis 2 ans de contrôle, c'est aussi devant un juge qui l'a presque fait faire pipi dans sa culotte quand il lui a demandé de le voir tout seul. Et lui, il a dit non, je veux pas. Enfin, d'abord, moi, j'ai dit que je ne voulais pas. Le juge a insisté pour voir l'enfant tout seul. Mon fils a dit non. Donc là, moi, j'ai redit, bon, ça suffit maintenant. Il vous a dit non, vous ne voyez pas un enfant de 5 ans. Là, il avait 5 ans, tout seul.
Ben oui.
Donc voilà, on a vécu des pressions telles qu'il était hors de question qu'on remette les pieds là-dedans. Donc moi, dès la première convocation, j'ai ramené tout ça au maire qui, lui, avait signé pour mon internement au tout début et qui sait très bien ce qui se passe, mais qui est un peu trop alcoolisé. Là. C'est un vrai ravage, l'alcool. Hein. Parce que malheureusement, c'est pas que chez les gens, comme j'ai pu entendre. Il y en a aussi dans l'administration. Donc là, c'est plus compliqué pour gérer le pays. C'est plus dur, rouler les villes, tout simplement. Donc voilà, alors on a été le voir avec mon fils, avec plusieurs convocations qu'on a reçues. À chaque fois, on n'y allait pas. On a dit, on ne retourne plus là-dedans, ça suffit. C'est flagrant maintenant. Donc moi, j'ai confié ça au maire en lui disant, écoutez, vous voyez avec vos services sociaux, vous savez ce qui se passe, vous arrêtez cet acharnement. Voilà. Et donc, lui nous a dit, oui, je vais voir ce que je fais. Et il n'a rien fait. Et étant donné qu'il n'a rien fait, moi, je me suis retrouvée un matin avec 9 Robocop sous les fenêtres. Au milieu, un homme d'1m80 habillé en kiki rose. Donc, j'ai tout de suite... Bon, ils sont venus pour prendre l'enfant. Donc, moi, j'ai eu un espèce aussi... Je crois que c'est assez naturel. De partir par le jardin, par l'autre côté, avec mon... Oui. J'ai pas à leur donner mon enfant.
Oui. Voilà.
Donc ils ont défoncé notre porte à coups de bélier. Après, ils sont rentrés avec des chiens. Donc j'ai un chat qui, au bout de 4 mois, il a toujours pas de poils. Ils ont pas repoussé. Parce qu'en plus, faut voir, ce que ça coûte aux contribuables, quoi. Parce que pour une affaire comme ça, ils ont même le chien. Ils sont venus après.
Un chien.
Ils nous cherchaient. Oui. Alors, il y a un moment, il y avait une voisine qui m'a demandé, mais si j'étais terroriste, quoi, parce que c'est pas possible d'employer autant de... Mais c'est des démonstrations de force. Voilà, j'ai pas voulu répondre à leur...
convocation.
À leur rendez-vous, voilà. Donc, ils ont explosé littéralement la porte, c'est pas... Voilà. Pour rentrer avec un chien chez nous, pour renifler nos affaires et essayer de nous retrouver dans la ville.
D'accord. Voilà. Ils vous ont retrouvé, au bout du compte.
Alors non, ils ne nous ont pas retrouvés. Non, parce qu'en plus, tout ça n'a pas bien. Ils nous ont retrouvés quand même. Moi, vu que je n'avais pas trop d'autres endroits que d'aller chez une personne de la famille, ils nous ont retrouvés le lendemain matin là-bas. Mais moi, je voulais partir, mais ça commençait à être le soir. Et pour le petit, je préférais que... Enfin voilà, c'était déjà assez violent. Et je me suis dit, il faut qu'on aille... on va aller dormir. Sinon, on aurait pu prendre la route. Mais je ne vais pas devenir une fugitive. Quoi. C'était déjà, si vous voulez, le fait de partir, ça a été un espèce de réflexe. Mais après, quand vous vous retrouvez dehors, vous faites quoi ? Vous voyez, j'aurais dû essayer de vous appeler à ce moment-là, mais je ne savais pas. Je ne vous connaissais pas.
Et donc, ils vous ont retrouvé et donc vous ont enlevé votre enfant ?
Ah oui, ils nous ont retrouvés, donc ils m'ont braqué au taser. Ils ont braqué mon fils aussi sur toute la descente de l'escalier.
Et ça, c'était des gendarmes, on est d'accord.
Ça, c'est les gendarmes, qui nous ont retrouvés. Voilà. Donc, du fait que je leur ai pas présenté l'enfant, c'est là, tout à l'heure, j'ai un peu mélangé, j'ai été accusée de vol d'enfants d'État, parce qu'ils ne considèrent pas que ce sont nos enfants, ils considèrent que ce sont leurs enfants.
Cette expression-là, elle est quand même énorme. Vol d'enfants d'État.
Voilà. Ah bah, là, par contre, c'est la seule convocation, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, audition. Enfin, j'ai été convoquée hein, pour vol. J'avais à me justifier de ça. Là, ça a été très court. Hein, parce que je leur ai dit, bon, là, bon, moi, j'ai 48. Enfin, j'ai quand même un âge où, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous voyez, des jeunes parents qui sont, à qui on commence à mettre ça dans la tête, ils finissent par le mettre dans leur tête, quoi. Moi, je c'est pas l'enfant de l'État, c'est mon enfant.
Ben bien sûr, bien sûr. Vous avez voilà. Tout à fait raison.
Voilà. Donc là, ça a été très court. Donc j'ai été, comment dire, relaxée de cette accusation.
Et allô?
Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai des petits bugs parfois.
D'accord, vous avez été relaxé donc de tout cela.
Donc voilà, de cette accusation. Et après, donc j'avais à me justifier peut-être 15 jours après. J'étais auditionnée au tribunal. Donc normalement, en apportant les justificatifs que mon fils sortait bien, il est à un club de hand. Il est parce qu'en plus pareil, il serait pas sociabilisé, etc. Il fait du sport depuis qu'il a 3 ans. Il est copain aussi bien avec. Enfin, je sais pas, il a des amis de son âge, mais la grand-mère du quartier aussi. Enfin bon, on a une vie très sociale.
Oui, donc, vous avez une vie normale.
Pour moi, de récupérer, voilà, beaucoup de témoignages. Je leur ai dit, bah écoutez, pour ce qui est de la scolarisation, je vous donne les papiers, mais vous pouvez vous-même, si vous appelez l'Académie de Paris, recevoir ces mêmes mails en moins de 2 minutes. Enfin voilà. Et en fait, bah pareil, du fait de mon comportement, comme ça, si vous voulez, je suis arrivée sans avoir peur, sans avoir, en étant sûre de ce que je dis. Mm-hmm. Et ça, vous ne pouvez pas parler à une juge comme ça.
Non.
Donc elle nous a littéralement sorti de son bureau. Mes sorcières. Moi, quand j'ai commencé à lui dire, c'est la méthode Sudbury, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà, c'est pas possible. C'est, voilà, c'est vous sortez maintenant. Voilà.
Pourquoi vous sortez? Vous sortez pourquoi?
Parce que elle avait. Alors, ce que je ne savais pas aussi à l'époque, c'est que c'est pas les juges qui donnent tout de suite les.
Allô? Allô, allô?
Ah. Allô?
Oui, on a été coupé.
Oui,
ce ne sont pas les juges qui donnent. Ça a été coupé.
Ce ne sont pas les juges qui prennent les décisions. Ils ont d'abord le procureur qui leur suggère une peine, vous voyez, et eux l'appliquent ou non.
D'accord.
Voilà. Et elle est très jeune, cette juge. Donc elle a eu du procureur. Alors le procureur, ce qu'il y a, c'est que lui, il n'a dans les mains que des rapports qui sont émis, les enquêtes, vous voyez, par les gendarmes. Ces mêmes gendarmes qu'on voulait m'envoyer chez les fous. Donc je vous laisse imaginer la hauteur des rapports qu'ils ont dû envoyer à monsieur ce procureur, donc qui lui était peut-être très mal informé à l'époque, voilà. Mais si j'avais eu audition, il y a des fois j'ai peut-être pas les termes parce que je ne suis pas de ce milieu-là, voilà, si j'avais eu audition, si cette jeune juge avait été honnête, mon fils m'était rendu dans la soirée, vous voyez. Et c'est de toute façon ce qu'on pense. Enfin, alors, semblerait que c'est pareil, ils ne vous le rendent pas tout de suite. Alors ça, je ne comprends pas, parce que c'est quand même des enfants. Ils sont quand même très fragiles. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est emmené en prison, si on voit par un test ADN qu'en fait, il est innocent, ou je ne sais pas, enfin, vous voyez, il est libéré dans la journée. Les enfants, s'ils voient qu'ils ont fait une erreur judiciaire, ils vont prendre le temps pour vous les rendre. Alors ça aussi, c'est un peu inquiétant.
Oui. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, il a été placé, votre enfant?
Alors voilà, alors j'ai appris aujourd'hui, parce que en fait, du fait que je sois partie avec mon enfant, ils ont estimé que j'étais fragile et je n'ai aucun droit de visite depuis. Donc il a été enlevé, parce que pour moi c'est un enlèvement, le 5 décembre, ça fait 133 jours aujourd'hui que je ne sais pas où est mon fils.
C'est fou ça.
4 mois, voilà.
4 mois que vous ne savez pas où est votre fils, que vous ne lui avez pas parlé.
Non, je ne sais pas où est mon enfant, il ne veut rien. Et lui, il a dû recevoir sur tous les courriers que j'en envoie un courrier, de ce que j'ai compris aujourd'hui de son avocate. Et donc son avocate dit aussi qu'il est trop triste, parce qu'elle l'a interrogé sur sa mère. Et donc il ne veut pas parler de sa mère parce qu'il est trop triste quand il parle de sa mère. Voilà. Et la personne de l'ASE aussi dit que maintenant, il commence à avoir des propos inquiétants. Mais récemment, donc c'est depuis qu'il est avec eux, en gros, il est en train de disjoncter, quoi.
Mais oui, le pauvre.
Mais il préfère le garder. Alors, aujourd'hui, j'étais à l'appel. C'est pour ça que je vous appelle, parce qu'en fait, j'ai peur pour lui. Parce que, bah, pareil, en appel, ils ont bien vu qu'ils avaient tort complètement. Mais ils ne peuvent pas me le rendre maintenant. Et la juge était aussi un peu décontenancée. Que je leur prouve qu'ils font un peu n'importe quoi, quoi.
Et donc, du coup, la prochaine audience, elle est quand, en fait ?
Alors, le 7 mai. Alors, quand je dis le 7 mai, c'est si vous voulez, là, par exemple, aujourd'hui, c'était l'appel. Et l'appel, pour moi, il y avait un délibéré de suite, vous voyez. J'ai vu aussi en correctionnel qu'ils étaient capables de délibérer pour des cas très, très graves en une demi-heure. Et là, la juge, aujourd'hui, m'a dit qu'il lui fallait 21 jours, parce que le 7 mai, là, c'est dans 21 jours, pour délibérer, savoir s'il me rend mon enfant ou non.
Incroyable.
Alors moi, c'est pour ça que je vous appelle aussi, parce que je me dis peut-être qu'à l'écoute, là, il y a des personnes, parce que je vais appeler le procureur demain, savoir, parce que selon mon avocate, on ne peut pas, maintenant qu'elle a dit que c'était le 7 mai, on attend le 7 mai. Mais je ne suis pas d'accord, moi. S'ils ont tort, ils n'ont pas à me faire attendre autant. C'est encore de la punition, de la soumission, de la... Vous voyez ce que...
Bien sûr, bien sûr.
Et si vous avez osé nous parler comme ça, donc on va prendre les délais maximum. C'est même...
Je vais vous dire ce qui est très inquiétant.
La torture psychologique.
Mm-hmm. Mm. Mais ce qui est très inquiétant dans votre affaire, et qui est assez classique, hein, malheureusement, c'est que ils n'aiment pas du tout ces services qu'on leur tienne tête, comme vous l'avez fait depuis maintenant.
Mais je leur tiens pas. Moi, c'est alors ils prennent ça. Non, mais ils ont un orgueil tellement délirant.
Mais oui, mais oui, oui.
Ils prennent ça pour peut-être. Si vous voulez, quand vous venez et que vous avez les preuves que c'est faux, vous les attaquez en gros.
Oui, et je vais vous dire.
Voilà. Et alors, donc elle Stéphanie... se sent obligée de vous. Il y a quand même l'avocate de mon fils qui a dit qu'il fallait que j'entende la souffrance que vit Darius en ce moment, et que donc il fallait que je me mette dans le cadre. Alors quel cadre ?
Mais quel cadre, en fait ? Il voilà. Souffre et depuis qu'il a été placé, votre enfant.
Il faut que je le mette à l'école nationale. Ça, je vois bien que c'est le fait qu'il ne soit pas à l'école, c'était le sujet principal de la journée. Et que grâce à eux, maintenant, avant, ils comptaient jusqu'à 12, et maintenant, ils comptent jusqu'à 29. Ils ont été capables de me dire des choses comme ça. Non, mais écoutez, on est des adultes quand même. Mmh. Et donc, moi, j'ai réussi à garder mon câble, parce qu'ils veulent vous faire péter un câble. Et après, comme ça, ils vous traitent de fou, et puis c'est réglé, quoi. Moi, il y a quand même une dame qui a été, la juge, qui a été capable de me dire que maintenant, il est bien, parce qu'avec eux, il s'est compté jusqu'à 29, maintenant.
Non, mais écoutez, bon.
Vous voyez un peu le niveau... Mmh. La justice, enfin de toute façon, bon, on le sait hein, que ça périclite.
Il va falloir que vous les conseils hein, que je vous donne parce que vous n'avez sûrement pas l'habitude d'écouter cette libre antenne sur laquelle bon nombre de parents ont appelé et ont été traités d'une manière particulière et qui ressemble à ce que vous nous racontez ce soir. Mais par contre, il y a une constante, je vous le dis Stéphanie, c'est qu'il va falloir que vous soyez extrêmement calme, poli, et que vous, malheureusement, que vous rentriez un peu dans « oui madame, j'ai compris madame », vous voyez, parce que si vous commencez à leur expliquer la vie, et quand je vous dis « expliquer la vie », attendez, laissez-moi finir. Le problème de ces institutions qui rendent les rapports à la justice, donc ça veut dire que la justice se base sur les dires de ces gens-là, qui détestent et qui, comme vous l'avez dit, ont un orgueil extrêmement mal placé, qui ne voient pas l'intérêt de l'enfant d'après, finalement, ce qu'ils arguent à chaque fois comme argument, mais finalement détestent être pris la main dans le sac, c'est-à-dire... finalement, en tort.
Et, oui, c'est une erreur de justice.
Et oui, c'est une erreur de justice, mais méfiez-vous. Ce que je veux vous dire, c'est que faites attention à être très modéré dans la manière de vous exprimer à venir. Parce que je connais j'ai eu des parents qui l'ont payé très, très, très cher. C'est-à-dire que les enfants sont toujours placés aujourd'hui. Alors que c'était une situation pareille que vous, hein, une dénonciation...